Morning Edition from NPR News.
FCT 3500.
France Inter, le 18-20.
Si vous avez un billet d'avion en main, si vous avez fait refaire votre passeport, que vous n'avez pas encore annulé quoi que ce soit, que vous songez toujours à un peu d'ailleurs, ceci va vous intéresser. On passe les frontières ce soir, celles de l'Europe, mais aussi les frontières hors Schengen, et vous allez voir que rien n'est encore simple et encore moins clair. Le bruit du monde est en Côte d'Ivoire, où c'est le palu que l'on craint, parce que beaucoup de malades n'ont pas osé aller dans les centres de santé à cause du Covid. Nous irons aussi à Quito, en Équateur, avec le journal sonore de Claire, qu'a recueilli et mis en onde Caroline Gillet. 18h50, le monde selon Trump et Grégory Phillips, forcément avec les obsèques de George Floyd. Vous verrez comment des cas de racisme dont la société ne s'était pas saisie à ce point-là sont en train de ressurgir et font du bruit aux États-Unis. Et puis 18h56, le monde d'après de Jean Marfour qui nous dira comment, pourquoi surtout le cas de George Floyd a eu une portée mondiale et même universelle. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Le tour d'Europe et au-delà donc des frontières ouvertes et fermées, c'est aussi un peu un jeu de cache-cache. En tout cas, parfois, c'est extrêmement compliqué. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Nous irons en Italie dans un tout petit instant. Nous irons aussi en Tunisie, là où frontières, épidémie et tourisme sont pensés, on va dire, en même temps. Mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur l'Europe, Angélique, avec vous, parce que c'est au fond là que les choses essaient de se décider, on va le dire comme ça. D'abord, est-ce qu'on peut faire un tour de ouvert-fermé ou c'est encore compliqué?
Ça reste compliqué, hein, même s'il y a eu une réunion importante des ministres de l'Intérieur vendredi dernier, alors à laquelle on avait imaginé qu'il y aurait des décisions très claires qui seraient prises à la suite de cette réunion. Ça n'a pas été le cas. Néanmoins, la majorité des États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont annoncé que d'ici le 15 juin, ils allaient effectivement rouvrir les frontières intérieures. La France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Grèce, les Pays-Bas, certains avec des restrictions. Je vais y venir, la Suisse aussi, parce qu'effectivement, il y a l'Union européenne, c'est important de le dire, plus l'espace Schengen, c'est-à-dire quatre pays, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein. Pour aller en Espagne, pas le 15 juin, il faut attendre le 1er juillet. Chacun gère un peu sa situation sanitaire. Il y a des pays qui sont aussi rentrés plus tard dans la pandémie. L'Italie a déjà rouvert ses frontières aux Européens. On va en reparler hein, pour relancer le tourisme, évidemment. Certains États vont rouvrir le 15, mais avec des restrictions par pays. D'autres ont dit qu'ils allaient attendre encore quelques jours avant de se décider, car la pandémie évolue. On pense à la Pologne. Et puis, il y a quand même un objectif affiché qui est sorti de cette réunion, c'est que toutes les frontières internes soient rouvertes au 1er juillet. C'est ce qu'a indiqué la commissaire en charge de ce dossier. Il y a des échanges importants en ce moment. Il faut rappeler que fermer ou imposer des contrôles aux frontières, c'est une prérogative des États.
Alors, ce qui est intéressant, Angélique, c'est qu'il y a des blocs de pays qui se désunissent. En fait, c'est ce qu'on voit aussi au fil de ces journées, notamment les pays nordiques, les voisins de la Suède, qui ne sont pas du tout décidés à rouvrir leurs frontières avec ce pays qui a eu une méthode un peu particulière dont on n'a pas le sentiment qu'elle a été très efficace.
Oui, et puis un taux de mortalité, on va le rappeler, qui compte parmi les plus élevés d'Europe, 4 fois plus que chez le voisin danois, jusqu'à 10 fois plus qu'en Norvège. Donc évidemment, ces pays-là, eh bien, ils hésitent encore. Hein. C'était eux qui hésitaient vendredi à s'engager pour le 15. Le Danemark va rouvrir effectivement ses frontières, mais uniquement, par exemple, pour les Allemands, les Norvégiens et les Islandais. Tout ça, c'est des espèces de bulles, des blocs. Il y a l'inverse, il y a aussi des pays qui sont déconfinés par groupe. Hein. Je pense aux 3 Baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui ont suivi la recommandation de la Commission, puisque ce ne sont que des recommandations. La pandémie a frappé de manière inégale. Elle a proposé que les restrictions aux frontières se fassent en fonction de pays qui ont des situations épidémiologiques similaires. Donc tout cela, finalement, ne contrevient pas au droit européen, il faut le rappeler.
Alors, une dernière chose, avant d'aller en Italie, puis de se retrouver d'ailleurs après, Angélique, vous avez partiellement répondu, mais est-ce qu'on ouvre les frontières parce que la situation sanitaire le dit? Est-ce qu'on ouvre les frontières parce que touristiquement, on est obligé, sinon c'est la catastrophe? Et j'ai même une espèce de question subsidiaire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois qu'au fond, les pays européens se font de la concurrence entre eux, parce que le tourisme en Europe, pour le coup, c'est important pour beaucoup des 27?
Alors, concurrence, bon, on peut peut-être reprendre ce qu'a dit le chef de la diplomatie belge ce week-end, Philippe Goffin, dans la presse belge. Il a dénoncé le fait que certains pays sont entrés dans une forme de concurrence touristique. On peut évidemment y penser, car le tourisme, c'est extrêmement important, mais l'ensemble de l'Union européenne est impacté par la crise du tourisme. C'est 10% du PIB européen, c'est 20% en Grèce et en Croatie. Tout le monde veut évidemment sauver sa saison touristique, mais bien entendu que la question sanitaire est aussi une question qui est prise en compte. Et puis, il ne faut pas oublier le fonctionnement du marché intérieur, Fabienne. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi le fait qu'on a vu ces derniers mois des files de camions aux frontières, des chauffeurs qui dormaient des jours entiers avec des marchandises. Et la libre circulation, c'est les personnes, c'est les biens, c'est les services, les capitaux. Il y a eu des voies vertes qui ont été ouvertes très rapidement, grâce pour le coup à l'influence et au travail de la Commission, pour que les camions passent. Moi, j'étais à la frontière récemment, il y a deux files. Les camions, ils ne sont quasiment pas contrôlés, les voitures le sont. Donc, on a fait remarcher ce marché intérieur, mais comment voulez-vous relancer l'économie si les camions ne circulent pas comme avant? C'est impossible. Donc ça, c'est un tout général et tout le monde pousse effectivement pour que cette réouverture des frontières internes se fasse de façon concertée pour que tout cela fonctionne et que le tourisme reparte évidemment.
Alors on va se retrouver dans un instant, Angélique, parce qu'il y a les frontières internes et puis il y a aussi les frontières externes. Bonsoir Bruce de Galzin.
Bonsoir.
Vous êtes en Italie. Angélique a fait très rapidement illusion. Vous avez effectivement été les premiers. Vous avez devancé tous les appels. Vous avez ouvert le 3 juin, vous, en Italie.
Oui, il y a moins d'une semaine et clairement, en fait, le gouvernement a cherché à anticiper d'abord pour forcer un peu la main à Bruxelles, c'est ce qu'on a compris ici, parce que la réponse n'était pas coordonnée, elle n'est toujours pas réellement, et c'était aussi pour tenter d'attirer les touristes avant les autres. Le tourisme en Italie, Angélique a donné des chiffres, c'est bien plus important même qu'en France, c'est 13% du PIB, en France c'est à peine 9%, donc c'est absolument fondamental parce que la crise ici est déjà rude, et elle le sera encore plus. C'est 3 millions d'emplois, on a déjà perdu 10 milliards d'euros. Donc les frontières ont ouvert il y a moins d'une semaine, donc il y a 6 jours. Est-ce qu'on a d'abord vu, c'était des files d'attente à la frontière française, mais là c'est pas vraiment les touristes, ce sont les Français qui sont venus acheter des cigarettes, okay, parce que ça coûte deux fois moins cher. Bon, après l'aéroport de Rome, moi j'y étais le jour J, le 3 juin, l'aéroport de Rome c'est le plus grand aéroport en Italie, c'est plus de 120 000 passagers par jour, il y en avait à peine 10 000, donc ça veut dire que c'est même pas 10%, moins de 10% du trafic normal, il y a un seul terminal qui est ouvert et pour l'instant on va pas en ouvrir un deuxième. Donc voilà, ça reprend très très doucement, les villes d'art comme Florence, Rome, sont des villes à visiter aujourd'hui parce qu'il n'y a personne ou pas grand monde, dirons-nous. Il y a des Italiens à la Galerie des Offices à Florence et au Musée du Vatican à Rome.
Et dans l'autre sens, Bruce, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des Italiens qui attendent impatiemment ou qui déjà ont passé la frontière de l'Italie jusqu'à la France?
Finalement, très peu. Alors, pour l'anecdote, justement, vu les files d'attente qu'il y avait pour aller en Italie, bah les Italiens ont hésité à passer la frontière française. Ils savaient bien qu'en retour, il y aurait beaucoup de monde. Mais non, les Italiens partent pas. Ils vont partir sans doute dans leur pays. Il y a une étude qui vient d'être publiée. 80% des Italiens resteront dans leur pays. Mais il faut savoir que un quart en moins prendra des vacances par rapport à l'année dernière. Crise oblige. Donc ils vont rester chez eux, ils vont descendre dans le sud, dans les Pouilles, en Sicile. Donc il n'est pas prévu qu'ils s'échappent, et même s'ils s'échappent entre guillemets, ils iront plutôt en Grèce, en Espagne, en Égypte, et a priori pas en France. Encore une fois, c'est une étude. Mais l'État ici veut de toute façon inciter les Italiens à rester dans leur pays, à consommer dans leur pays. Et pour cela, eh bien, ils ont mis main en place un bon vacances, alors sous condition de ressources, certes, mais c'est quand même jusqu'à 500 euros pour une famille qui a 3 enfants, mais le bon vacances de 500 euros est à dépenser uniquement, bien sûr, dans des structures touristiques italiennes.
Une dernière question rapidement, Bruce, qui vous concerne très directement. Ouvrir les frontières, ça veut dire ouvrir les ports. Et ça peut aussi avoir une conséquence annexe, si je puis le dire comme ça, avec des guillemets, qui inquiète terriblement les Italiens.
Bah exactement, c'est une inquiétude aujourd'hui du ministère de l'Intérieur qu'il prend très au sérieux, qui vient d'envoyer une lettre à Bruxelles. Précisément, elle mène la négociation avec, il y a l'Espagne bien sûr, il y a Chypre, il y a la Grèce et il y a Malte. L'idée, c'est coordonnons enfin les arrivées des bateaux. Le problème de l'Italie aujourd'hui, c'est de se dire, attention, les ONG reprennent la mer. Elles étaient interdites de mer, les ONG, Sea-Watch, SOS Méditerranée. Donc aujourd'hui, il faut absolument gérer l'arrivée. Et, je terminerai par là, il faudra aussi gérer le départ. Le départ, aujourd'hui, c'est la Tunisie et c'est la Libye. Donc, les Italiens, la ministre va en Tunisie pour essayer de gérer cela.
Nous aussi, on ira dans un instant en Tunisie. Angélique, voilà. Je me retourne juste vers vous une seconde. Est-ce qu'on en parle de ça dans les couloirs de la Commission, de cette éventualité de retour de migrants, effectivement, et de vagues qu'il faudra à nouveau gérer, peut-être mieux que ce qu'on a géré précédemment?
Je peux vous dire que c'est au cœur du travail actuel d'une partie des diplomates à la Commission, hein, évidemment. On l'a revu ce week-end avec Malte, hein, le plus petit État de l'Union par sa taille et ses populations, qui a été obligé d'assumer seul l'arrivée de plus de 400 migrants faute de solidarité européenne. La Commission von der Leyen travaille à un nouveau pacte migratoire qui devait sortir au printemps. Il a été retardé par le Covid, mais c'est au cœur des questions, évidemment.
Une question sur l'extérieur, Angélique, le gros nœud, évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec les frontières extérieures?
Ah oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure ensemble des frontières intérieures, mais vendredi dernier, on a beaucoup discuté des frontières extérieures, et je peux vous dire que là, ça provoque des sueurs froides, hein, dans les couloirs de la Commission, parce que si chacun joue encore là sa partition de son côté, ça peut être un désastre. Par exemple, si un pays décide de rouvrir ses frontières avec les États-Unis, par exemple, mais que les Danois, dont on a vu tout à l'heure qu'ils étaient frileux, refusent de les accueillir, eh bien, ils peuvent refermer leurs frontières intérieures, on recrée un bazar intérieur. Donc cette décision avait été prise de fermer les frontières extérieures, c'était inédit jusqu'au 15 juin. Il y a un accord global pour pousser jusqu'à début juillet, et après on propose un déconfinement graduel. La Commission doit faire des propositions cette semaine.
Alors on espère bien, on va revenir avec vous en conclusion, parce que j'en ai une dernière sous le pied, si je puis me permettre, Angélique, qui m'intéresse autour de l'Europe. Je voudrais quand même qu'on salue Maureen Mercier. Bonsoir Maureen.
Bonsoir.
Vous êtes en Tunisie, on y a fait allusion à l'instant. La Tunisie qui rouvre effectivement à la fin du mois avec une vraie impatience, avec aussi beaucoup de craintes. Que les choses soient très claires chez vous, si les Européens ne viennent pas, c'est le pays qui s'effondre.
On n'espère pas, mais ce sera effectivement très compliqué. Réouverture le 27 juin, oui, sauf que ce sera malheureusement évidemment pas si simple. Toute la question, c'est quel pays permettra à ses citoyens de venir passer des vacances en Tunisie, à quelles conditions, combien l'Europe se montrera protectionniste pour redresser son propre secteur touristique, et oubliera dans l'équation la Tunisie. Le secteur touristique, c'est 14% du PIB. La Tunisie se retrouve dans cette situation assez paradoxale. Elle a évité le pire, elle a pris des mesures très vite pour lutter contre le Covid. On compte moins de 50 morts ici, mais d'un point de vue touristique, là, on parle carrément de survie.
Et ce qu'il faut rappeler, Maureen, c'est que depuis 2011, en gros, depuis la Révolution, il y a eu effectivement cette période révolutionnaire qui a été un peu compliquée pour le tourisme. Il y a eu la période de terrorisme, évidemment, dont on se souvient bien aussi, qui a été difficile. Il y a eu la faillite de Thomas Cook, qui a été importante pour vous en Tunisie. Et puis, il y a le Covid. On a l'impression que c'est un peu le dernier coup. J'étais tenté de dire le coup de grâce. Oui, c'est ça. Et c'est même la pire des crises, en fait.
Absolument. D'abord parce qu'il n'y a pas de perspective. Quand les touristes européens reviendront-ils? Ce sont les plus importants pour la Tunisie, on n'en sait strictement rien. C'est la pire crise parce qu'il faut tenir compte de cet historique, hein, de tout ce que vous venez de dégrainer. Les touristes européens ont déserté la Tunisie après la Révolution, puis les attentats du musée du Bardo et de la plage de Sousse en 2015. Ils commençaient enfin à revenir. Le virus vient saper tous les espoirs. Ça ressemble franchement à une malédiction. Il faut se rendre compte que les hôteliers sont surendettés, hein, qu'ils étaient déjà en mode survie avant cette crise. Beaucoup n'arriveront pas à se relever. Les liquidités, de manière générale, se sont envolées. Évidemment que ça se répercute sur les employés, et surtout la plupart des Tunisiens qui travaillent dans l'industrie touristique ont des contrats de courte durée. Autant vous dire que cette année, personne parmi ces contrats précaires n'a reçu de salaire. Ici, il n'y a pas de filet social. Ouais. Hein. Être au chômage, ça signifie ne pas gagner un centime, tout simplement.
Alors une dernière chose, Maureen, il y a peut-être un salut, en tout cas un peu de sauvetage qui peut venir des pays voisins. On pense à l'Algérie, on pense à la Libye. Mais il y a surtout une grande campagne de pub, qui va être lancée par la Tunisie, vers les touristes européens. Regardez ce qu'on sait faire, n'hésitez pas à venir, en gros.
Voilà, le but, c'est de rassurer les Européens, de leur expliquer que toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer leur sécurité, de capitaliser, hein, en quelque sorte, de rappeler aux Européens que la Tunisie fait partie des pays les moins touchés par le virus. C'est un peu le monde à l'envers. Hein. La Tunisie doit rassurer, alors que c'est la Tunisie qui risque finalement d'être contaminée par les touristes européens, non l'inverse. Le ministre du Tourisme tente de convaincre les chancelleries européennes. Ici, pour l'heure, ça ressemble à une mission quasiment impossible. C'est une pilule qui est d'ores et déjà difficile. Difficile à avaler, hein, que l'Espagne et l'Italie, qui comptent parmi les pays européens les plus affectés, puissent accueillir des vacanciers européens, mais pas sûr du tout que ce soit le cas pour la Tunisie, qui n'a pratiquement pas été touchée par le Covid. C'est une décision éminemment politique. Voilà comment les hôteliers résument. Il y a de l'amertume et surtout déjà beaucoup d'inquiétude.
Merci beaucoup Maureen Mercier. Angélique Bon, je voudrais qu'on essaye de conclure ensemble. Effectivement, on peut comprendre l'amertume, le sentiment des Tunisiens de dire tout ça est terriblement injuste. ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe, est-ce que la Commission, en gros, peut faire pression? Et si elle peut faire pression, comment elle fait? Comment elle fait pour qu'on se range un peu à quelque chose d'un peu cohérent pour tout le monde?
Ce qu'elle fait déjà, c'est qu'elle réunit de façon hebdomadaire les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé ici, ce qui est un peu inédit, hein, me confiait un diplomate tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on voit par exemple, nous, journalistes ici, très souvent, les ministres de la Finance, hein, Bruno Le Maire vient beaucoup négocier ici, les ministres de la Santé et de l'Intérieur, c'est plus rare en fait, même s'il y a beaucoup de conseils, j'aille, etc. Mais déjà, ils se parlent énormément, donc l'idée c'est d'essayer de convaincre, mais effectivement, c'est une prérogative des États, c'est la clé de la souveraineté, hein, les frontières, donc les États, ils la lâchent pas comme ça. Puis il y a eu un réflexe face à cette menace, on a bouclé les frontières, c'était quand même du jamais vu. Donc il y a l'idée de beaucoup se coordonner, il y a des allers-retours entre les ambassades, les ambassadeurs ne chôment pas, je peux vous le dire. Et puis il y a l'idée de faire passer quand même un message politique, la libre circulation, c'est quand même une clé de la solidarité européenne, et ça ferait quand même mauvais genre qu'on sorte de cette crise et qu'on déconfine aussi misérablement qu'on est confiné, j'allais
dire. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous dire, et vous y avez répondu en avance, effectivement, parce que le ratage à l'allumage, on va le dire comme ça, du confinement est encore dans toutes les mémoires. Je vous remercie mille fois, Angélique Bois. Merci vraiment. Merci à Maureen Mercier en Tunisie. Merci à Bruce de Gelsin aussi en Italie.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et la suite, ça se passe en Côte d'Ivoire, où l'on craint plus désormais le paludisme que le Covid. Nous irons à Quito, en Équateur, grâce au journal sonore de Claire, recueilli par Caroline Gillet. Le Monde selon Trump est à Houston pour les obsèques demain de George Floyd. Et puis le Monde d'après, Jean-Marc Four nous dira justement pourquoi le cas George Floyd est devenu universel. Ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Israël. Voici Asaf Avidan sur France Inter, et la chanson s'appelle « Lost Horse ».
Undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we're wrong to have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet. And silver boots make when I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. A sundown father gods, we were born. Raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love.
Asaf Avidan et Lost Horse sur France Inter. Le bruit du monde, ce soir, est en Côte d'Ivoire, où on ne va pas parler de Covid, on va parler de palu. L'OMS prévoit 2 fois plus de décès du paludisme cette année, précisément parce que les Ivoiriens ont désormais peur de se rendre dans les centres de santé, ce qui peut retarder les diagnostics. La recherche sur le paludisme est également touchée, et c'est ce que nous raconte Amandine Réau depuis Abidjan.
Jean-Paul Kouakou est agent de santé communautaire à Locassou, un village du centre de la Côte d'Ivoire. Il travaille pour l'ONG internationale Save the Children. Ce matin, il anime un petit atelier de sensibilisation en langue baoulée. Le message passe mieux qu'en français. À son programme ordinaire sur le paludisme, Jean-Paul Kouakou a ajouté les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. La pandémie a ralenti les activités. Les habitants ont peur de se rassembler. Mais pas question de tout arrêter. Le paludisme reste la maladie la plus courante en Côte d'Ivoire. 600 000 infections par mois sur une population de 25 millions d'habitants. Dormir avec une moustiquaire, ne pas garder les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction des moustiques. Jean-Paul Kouakou répète les comportements à adopter. Avant d'en finir, l'agent de santé demande s'il y a un enfant malade dans le foyer des participants. Et il fait bien, le petit Elvis, 3 ans, a de la fièvre depuis hier soir. Le test est positif au paludisme. Jean-Paul Kouakou donne des médicaments à la mère. En Côte d'Ivoire, le traitement est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans qui représentent 2/3 des décès liés au paludisme dans le monde. Le cœur de cible de l'ONG Save the Children.
Je le dis, même si tu as le Covid-19, on peut aller te soigner. Donc même si tu as ça que tu te caches, tu peux mourir. Donc n'arrête pas d'aller au centre de santé.
Lorsque son fils a eu de la fièvre, Odette Amani, une habitante, a eu peur que ce soit le coronavirus.
Sur le chemin de l'hôpital, je priais. Je ne voulais pas qu'on me dise que mon enfant a le coronavirus. Il avait beaucoup de fièvre. Arrivé là-bas, on a pris sa température. Il avait 40 degrés. J'avais peur.
Finalement, c'était le paludisme. Presque un soulagement pour elle, car on peut le soigner.
On a eu peur d'aller à l'hôpital parce que les gens disent que quand tu éternues ou bien tu tousses, on dit que tu as la maladie ou bien si tu chauffes. Donc si on a un rhume par exemple, on a peur de partir parce qu'arrivé là-bas, on va nous dire qu'on a la maladie, qu'on a le coronavirus. Donc on a peur.
Doglo Soro, infirmier dans un centre de santé, confirme une baisse globale de la fréquentation.
Il faut dire que oui, au début de la crise de Covid-19, il y a eu vraiment une baisse des taux de fréquentation des centres de santé.
Les gens ont plus peur du coronavirus que les autres maladies. Et comme il a dit, dans le coronavirus, il y a la fièvre, dans le palud aussi, il y a la fièvre. Donc pour eux, quand ils vont venir et qu'on va dire qu'ils font la fièvre, on va penser qu'ils sont atteints du coronavirus. Comme il n'y a pas de traitement qui existe, comme pour plusieurs pathologies où on sait que si j'ai cette pathologie, qu'il prend le médicament, je serai guéri. Donc ça fait que les gens ont peur d'attraper la maladie.
À Boaké, deuxième ville du pays, l'Institut Pierre Richet est en première ligne sur les recherches pour lutter contre le paludisme. Les scientifiques analysent par exemple l'impact des moustiquaires imprégnés sur la prévalence de paludisme dans les villages ou encore l'impact des pulvérisations d'insecticides dans les habitations. Mais seul le travail de laboratoire continue, toutes les activités de terrain ont été mises en pause. Docteur Ludovic Awa, entomologiste médical.
Il y a non seulement les problèmes de distanciation dont il faut tenir compte aussi de la crainte de ces populations-là. Et il y a plusieurs paramètres. Et donc pour pouvoir essayer tant soit peu que tout le monde soit en sécurité, nous avons préféré ce soit ces activités-là.
Les populations devront donc attendre encore la pulvérisation d'insecticides dans leur maison. Pourtant, cela peut réduire considérablement la présence de moustiques pendant 9 à 12 mois. Autre conséquence, impossible de trouver une bourse de recherche qui concerne le paludisme, regrette Serge Brice Assi, médecin-chercheur en parasitologie.
En dehors des gros partenaires comme PMI, comme le Fonds mondial, qui continuent d'appuyer les programmes nationaux contre le paludisme, il y a très peu de financements qui sont apparus sur Internet un peu partout en rapport avec le paludisme. Tout est focalisé sur le Covid-19. Je suis un peu frustré quand on voit le nombre de décès occasionnés par le paludisme à travers le monde, notamment en Afrique. Quand on voit le nombre de cas de paludisme qu'il y a en Afrique, quand on voit le nombre d'efforts qui restent encore à faire, je pense qu'il ne faut pas prendre la tombée du paludisme. Franchement, pour vous dire les moyens qui ont été mobilisés pour le Covid en moins de 2-3 mois, je trouve que c'est énorme, notamment pour la recherche de vaccins et pour la recherche de médicaments. Je pense que si on avait mis quelques plus de moyens dans la recherche de vaccins pour le paludisme, peut-être qu'on aurait fait un pas en avant.
Perturbation de la recherche, baisse de la fréquentation des centres de santé. Et selon le Fonds mondial, l'un des principaux donateurs pour le paludisme, le coronavirus pourrait aussi ralentir l'approvisionnement des médicaments en Côte d'Ivoire.
Amandine Réau, merci beaucoup Amandine depuis Abidjan. C'est à Quito que nous allons maintenant. Quito pour un nouveau journal sonore envoyé à Caroline Gillet. C'est celui que Claire partage avec nous. Dimanche, c'était la fête des mères. Claire est confinée avec son compagnon et sa petite fille. L'Équateur, vous le savez, c'est l'un des pays les plus touchés par le virus en Amérique latine. Elle a commencé par en parler à la fin du mois de mars, à envoyer des petits morceaux de son quotidien très régulièrement. Vous entendrez d'ailleurs que parfois elle s'essouffle parce que Quito est à 2800 mètres d'altitude. Elle écoute aussi de la musique en confinement. Claire, c'était très musical, son confinement, mais une chose après l'autre.
Alors là, on est monté sur la terrasse en urgence. Parce que on a vu par la fenêtre, donc à l'entrée du parc qui est à côté de chez nous, un troupeau de lamas. Voilà, donc ils sont normalement, ils sont dans le parc, mais ils viennent jamais jusque là parce que là il y a la route. Mais en fait, comme je pense que comme il y a moins de gens, ça doit pousser l'herbe vraiment partout. Et donc il y avait, je sais pas, 15 lamas, je pense.
Et vous, je vous faisais avec les téléphones.
On dit aux gens qu'on a vu des lamas. Il y a une camionnette qui passe. Avec des paysans qui vendent leurs pommes de terre en fait. Là, c'est le moment du camion de gaz. Voilà, la municipalité les a obligés à mettre de la musique parce qu'avant ils klaxonnaient et c'était soi-disant trop insupportable, donc maintenant c'est de la musique.
Ça fait 15 jours que sur les réseaux sociaux sont sorties des vidéos a priori très très choquantes. De cadavres entassés dans les rues de Guayaquil. Depuis le début, de toute façon, on sait que c'est Guayaquil, hein, le centre de l'épidémie. En fait, c'est la capitale économique du pays. Donc, ils ont plus d'échanges, donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont été contaminés plus tôt. Les habitants de Quito disent que ceux de Guayaquil ne respectent pas les règles. Et donc, en fait, les accusent d'avoir colporté le virus en ne respectant pas le confinement. Voilà. Mais il faut aussi comprendre qu'il fait 30 degrés et c'est très humide à Guayaquil. C'est une grosse ville, donc c'est peut-être aussi plus difficile pour les gens de rester chez eux. Et ça explique aussi pour les cadavres le fait, en fait, on leur demandait de garder les cadavres 2 ou 3 jours chez eux. Et donc, avec la chaleur, c'était pas supportable.
Je vais vous faire écouter la pluie. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, ici. La mairie a quand même autorisé ce qu'ils appellent les serenatas, c'est-à-dire des musiciens qui viennent chanter sous les fenêtres. Parce que c'est tellement sacré ici, la fête des mères, que c'était pas envisageable d'interdire ça. Et là, je vais me connecter parce que la garderie de ma fille en organise une en ligne, donc je vais me connecter. Donc là, je suis connectée. Et tout le monde est en train de s'installer. Alors les familles équatoriennes s'installent vraiment de façon très solennelle. 2 chaises avec l'enfant, la mère en face de l'écran. Et alors on est un peu étonnés parce que les enfants ils sont déguisés. Donc on n'avait pas bien compris qu'il fallait être déguisé.
Feliz día, mis mamitas queridas, queridas mamitas de la guardería Tía Gaby. Nos pasamos con Aurora. ¿Crees que es demasiado? Entiendo tu sentir.
Au début du confinement, il y avait des musiciens qui passaient dans la rue pour diffuser de la musique et gagner un peu d'argent. Là, ça fait un mois qu'on ne les avait pas vus, mais là, le confinement s'assouplit et donc ils sont revenus.
Et merci beaucoup à Claire qu'on va retrouver. Évidemment, plus d'informations à trouver sur franceinter.fr, notamment sur les événements, les difficultés qui ont secoué Quito ces derniers temps. Voici Alabama Shake sur France Inter. Hold on.
You got
Alabama Shakes, Hold On sur France Inter. Allez, direction, tiens, les États-Unis justement.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le Monde selon Trump et Grégory Phillips, bien sûr. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, Le Monde selon Trump qui, comme toute l'Amérique, a délocalisé, on va le dire comme ça, son centre de gravité vers Houston, Texas, où sera enterré demain George Floyd. Un certain nombre de cérémonies ont commencé, dont vous nous reparlerez tout à l'heure dans le journal de 19h. Grégory, l'affaire de George Floyd a réveillé évidemment les démons de l'Amérique et au-delà. Elle a aussi réveillé des cas de racisme qui avaient fait l'objet d'indignation précédemment, sans bousculer toute la société, mais quelques cas réellement emblématiques dont on reparle aujourd'hui. Le premier cas dont vous voulez nous parler, c'est Amo Aberi, abattu littéralement fin février en Géorgie par deux hommes blancs. Et cette affaire avait déjà été un choc, Grégory.
Oui, on a déjà évoqué ici ce cas Ahmaud Arbery, donc cet Afro-Américain de 25 ans qui, fin février, sur une petite route de campagne de Géorgie, chez lui à Brunswick, avait été abattu par ces deux hommes blancs. L'un d'ailleurs était un ancien policier, alors que le jeune homme faisait son jogging. Les auteurs des coups de feu n'ont été interpellés que deux mois plus tard. Pourquoi, Fabienne ? Parce qu'a émergé sur les réseaux sociaux une vidéo absolument terrifiante de la scène sur laquelle on entend ces trois coups de feu et puis on voit Arbery s'effondrer quelques secondes plus tard. Alors, le père d'Ahmaud Arbery, Marcus Arbery Senior, est ici à Houston pour les cérémonies qui débutent en ce moment. Je l'ai rencontré hier soir. C'est un homme détruit, mais qui voulait être là aujourd'hui pour dire sa peine et aussi présenter ses condoléances à la famille de George Floyd.
Mon fils a été lynché. Il a été lynché par deux hommes blancs. Et tout ce que je veux, c'est la justice. On veut être traité à égalité avec les autres Américains, avec les blancs. On veut la même justice qu'eux. Je suis ici à Houston pour être avec les autres familles, leur dire mon soutien et leur adresser mes prières, parce que je vois ce qu'elles traversent. J'espère que justice sera rendue et qu'on verra les choses changer.
Terrible histoire, terrible peine pour ce père de famille. Les deux hommes qui ont tué Ahmaud Arbery et celui qui a filmé la scène ont fini par être arrêtés et inculpés pour meurtre.
Et ce qui est remarquable et impressionnant dans ce que vous nous avez envoyé, l'interview du père, c'est le terme employé, Grégory. Rien n'est innocent, évidemment, dans ce qu'il dit. Fils a été lynché.
Et on est en Géorgie, évidemment, cet état marqué par l'esclavage et la ségrégation.
Alors, il y a un autre nom qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours dans les manifestations aux États-Unis, Grégory, c'est celui de Breonna Taylor.
Histoire absolument incroyable. Ça se passe à Louisville, Kentucky, le 13 mars dernier. Il est 1h du matin. Breonna Taylor est dans son lit chez elle quand des policiers de la brigade des stupéfiants pénètrent à l'intérieur de son domicile. Ils sont à la recherche de son compagnon qui est soupçonné de trafic de drogue. Le compagnon est là. Il prend peur, il pense qu'il y a des cambrioleurs. Il prend son revolver et il ouvre le feu. Les policiers ripostent immédiatement et Breonna Taylor est tuée dans son lit alors qu'elle dormait. Scène absolument incroyable et mort un peu oubliée parce que ça s'est déroulé pendant l'épidémie de coronavirus. On en a assez peu parlé dans les médias américains et puis son nom a réapparu à la faveur des manifestations de ces derniers jours et de plus en plus dans les manifestations. On a vu le portrait de cette jeune aide-soignante et un cri de ralliement également autour de Breonna Taylor, tout comme pour George Floyd. Une enquête du FBI a été ouverte. Les trois officiers mis en cause ont été suspendus administrativement, mais pas inculpés. La police de Louisville a décidé de se réformer en partie et désormais, ou en tout cas bientôt, les policiers municipaux auront des caméras portatives avec eux. Mais vous voyez, c'est aussi une mort tragique, un destin afro-américain. Le portrait de Breonna Taylor est désormais porté par les manifestants ici depuis une dizaine de jours. Elle allait avoir 27 ans le 5 juin dernier.
Merci beaucoup Grégory Phillips. C'est important de se souvenir aussi de ces gens. Évidemment, vous allez nous raconter ce qui se passe en ce moment à Houston, Texas, avant les obsèques de George Floyd qui auront lieu demain. Vous le raconterez tout à l'heure avec Sébastien Paour dans le journal de 19h. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
On va rester dans le thème, Jean-Marc, alors que Houston donc s'apprête à célébrer les obsèques de George Floyd. Le week-end a été marqué par de nouvelles mobilisations de soutien un peu partout dans le monde, des manifestations qui se sont intensifiées. Et votre interrogation ce soir, c'est pourquoi un tel écho sur la planète? Et c'est votre monde d'après.
Oui, alors la raison la plus évidente, c'est la communauté de destin. La mort de George Floyd fait écho dans plusieurs autres sociétés touchées par la discrimination ou les violences policières. L'exemple le plus frappant, c'est l'Australie. 20 000 personnes avant-hier dans les rues de Melbourne ou de Sydney pour dénoncer le sort réservé à la minorité aborigène. Vol de leurs terres, négation de leur culture, centaines de morts en détention. Tout cela est su en Australie, mais rien n'est fait. Ce week-end, le gouvernement conservateur de Scott Morrison s'est contenté de dénoncer les manifestations des manifestants égoïstes qui risquent de propager à nouveau le virus, un petit parfum de Trump. Ce sentiment de discrimination, on le retrouve dans une autre variante chez les Palestiniens, endeuillés par la mort d'Iyad Alak, ce jeune homme autiste tué par la police israélienne. On le retrouve au sein des populations issues de l'immigration en Allemagne ou en Italie, au Royaume-Uni, où les manifestants ont déboulonné ce week-end la statue d'un ancien esclavagiste. En France, où on l'a vu, le drame américain réveille la mobilisation sur les conditions de la mort d'Adama Traoré en 2016 et relance le débat sur les violences policières. Chaque pays a ses particularités, mais nombreux sont aujourd'hui les pays où les discriminations sont fortement ressenties par les populations dites des minorités ethniques. C'est la première explication de cette mondialisation des manifs.
Et alors on est frappé aussi, Jean-Marc, par la vitesse à laquelle ces mobilisations sont apparues partout dans le monde.
Oui, c'est une traînée de poudre. Alors c'est la combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est le confinement. Cette période a en même temps frappé les minorités visibles, plus de morts que la moyenne, et mise en évidence le rôle joué par ces populations dans des fonctions essentielles mais mal payées, les livreurs, les caissières de supermarchés, etc. Donc le virus et le confinement mettent en évidence ce sujet des discriminations. Deuxième facteur incontournable en 2020, les réseaux sociaux. Ils propagent les fausses informations, on le sait, mais ils favorisent les mobilisations. Quelques heures à peine après sa mort, les images du calvaire de George Floyd apparaissaient déjà sur les comptes Instagram des adolescents en Europe. Enfin, troisième facteur, les médias traditionnels. Qu'ils soient américains, avec la puissance de diffusion qui les caractérise, ou qu'ils soient étrangers, avec une importance très forte, presque démesurée, accordée à tout ce qui se passe aux États-Unis, a fortiori sous Donald Trump. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour accélérer le processus.
Voilà, et à propos de Trump, évidemment, il y a quand même aussi un peu un règlement de compte avec le président américain.
Oui, bien sûr, c'est le dernier facteur. Il n'y aurait pas cette mobilisation mondiale si l'agonie de George Floyd s'était déroulée dans un autre pays, quel qu'il soit. Cette affaire, elle donne l'occasion d'exprimer un rejet massif de Donald Trump un peu partout dans le monde. C'est pas un hasard si les manifestations ont souvent lieu devant les ambassades américaines, parfois au cri de « fuck Trump ». En janvier dernier, une enquête du très sérieux Pew Center dans 33 pays avait révélé que 64% des populations dans le monde ne font pas confiance à Donald Trump, et encore étions-nous avant le virus, avant la mort de George Floyd. Seulement 13% de confiance en Allemagne, 19% en France, 28% au Canada. C'est bien un rejet de Trump, pas des États-Unis, qui conservent dans cette même enquête une cote de confiance à 54%. On peut donc aussi voir dans ces manifestations mondiales comme l'expression d'un regret ou d'un espoir que les États-Unis redeviennent un symbole de liberté, un grand frère. Ces mobilisations nous disent que le soft power américain n'est pas tout à fait mort, que le rêve américain n'est pas tout à fait mort, mais que Donald Trump l'enterre un peu plus chaque jour.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, merci beaucoup. Dans un instant, c'est le journal de Sébastien Paour et le téléphone sonne.